de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le Japon et l'Union européenne conviennent de renforcer leur coopération contre la Russie. L'Union européenne légalise l'utilisation de l'application Peduli Lindungi sur son territoire. L'Union européenne est libre et inclusive, pas Zhang Tishin. L'Indonésie coopère avec la France pour discuter des questions de sécurité maritime. COVID-19 est une évaluation de l'importance de l'investissement en soins infirmiers. Trois nouveaux vaccins d'immunisation de base font partie d'une transformation de la santé primaire. Le ministère de la Main-d'œuvre invite la délégation de l'EWG à voir l'artisan à Yogyakarta. Voici le journal complet. Le Japon et l'Union européenne ont convenu de renforcer leur coopération pour faire face à la Russie au sujet de l'invasion de l'Ukraine par ce pays. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Fumio Kishida ce jeudi, cité par Reuters, lorsque le conflit se poursuit et que les sanctions contre Moscou se durcissent. Le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le premier ministre Kishida ont déclaré lors d'une conférence conjointe à Tokyo qu'ils poursuivraient les discussions sur les stratégies visant à maximiser les partenariats pour lutter contre la Russie dans des secteurs comme l'énergie. Tokyo rejoint l'Union européenne et le groupe Z pour imposer des sanctions commerciales à la Russie. Les trois responsables se sont rencontrés dans la capitale japonaise pour la conférence annuelle dont en 2021 a été tenue en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. L'Union européenne a autorisé l'utilisation de l'application Peduli Lindungi sur son territoire à partir du 11 mai 2022. La ratification est effectuée par une décision d'application qui contient une reconnaissance de l'égalité des certificats de vaccination délivrés par l'Indonésie. C'est le communiqué de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles reçu à Jakarta jeudi. Grâce à la mise en œuvre de l'égalisation, le code QR de l'application Peduli Lindungi peut être lu dans 27 pays membres de l'Union européenne. Ainsi, les citoyens indonésiens qui se rendront dans l'Union européenne n'ont plus besoin d'enregistrer le code QR séparément. Grâce à cette reconnaissance mutuelle, le code QR du système de l'Union européenne peut également être lu en Indonésie, de sorte que les citoyens de l'Union européenne voyageant en Indonésie n'ont plus besoin de télécharger l'application Peduli Lindungi. Selon l'ambassade d'Indonésie, cette approbation signifie la reconnaissance par l'Union européenne de l'efficacité du système de certificat de vaccination de l'Indonésie. L'envoyé spécial de la République tchèque pour l'Indo-Pacifique, l'ambassadeur Libor Seka, a déclaré que la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne donne la priorité à une coopération ouverte et inclusive, y compris avec la Chine. Cela a été dit par Seka lorsqu'il a rencontré Antara à Jakarta jeudi. Il a déclaré que l'approche de l'Union européenne vis-à-vis de la région et que la coopération et la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne ne mènent pas à la Chine. Avec la Chine, l'Union européenne coopère sur la base des intérêts. Pour certains pays de l'Union européenne, coopérer sur une base de valeurs. Donc l'Union européenne n'est pas anti-Chine. Cela a été souligné par l'ambassadeur Libor Seka. Le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement de la République d'Indonésie coopère avec la France pour discuter de la question de la sécurité maritime afin de pouvoir partager les meilleures expériences en matière de gestion des espèces maritimes. Cela a été discuté dans le groupe de discussion focalisé FGD bilatéral Indonésie-France sur le thème « Construire la résilience maritime de l'Indonésie dans la région côtière et les îles ultra-périphériques » qui s'est tenu à Bali jeudi. L'agent à la coordination de la souveraineté maritime et de l'énergie du ministère de coordination des affaires maritimes, Basilio Dias Araujo, a déclaré jeudi dans une déclaration écrite à Jakarta que les défis du secteur maritime s'étendent actuellement des défis traditionnels à divers défis non traditionnels, comme la pratique de la pêche INN et les conséquences du changement climatique. Par ailleurs, l'ambassadeur de France en Indonésie, Olivier Chambard, a déclaré que la France et l'Indonésie ont toutes deux la responsabilité de faire face aux défis du secteur maritime. Le FGD a abouti à un engagement à élaborer un plan d'action pour la résilience maritime basée sur les principes de durabilité et de responsabilité en collaboration avec toutes les parties prenantes du secteur maritime. La présidente de la Chambre des représentants indonésienne, Puan Maharani, espère que la pandémie de COVID-19 qui a maintenant commencé à se baisser pourra être une évaluation de l'importance de l'investissement des infirmières indonésies. Elle l'a dit dans une déclaration écrite jeudi en réponse à la commémoration de la Journée internationale des infirmières. Selon Puan Maharani, le rôle des infirmières doit être apprécié, surtout pendant la pandémie, car ce sont elles qui interagissent directement avec les patients en première ligne. À travers des investissements infirmiers, selon elle, le gouvernement doit veiller à ce que le nombre d'infirmières puisse être suffisant si une maladie infectieuse extraordinaire se reproduit. Il a également souligné que les infirmières devaient être données le soutien adéquat en termes d'éducation, de bien-être et d'équipement médical utilisé. Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadisadikin, a déclaré que la politique du gouvernement visant à ajouter 3 nouvelles variantes de vaccins au programme de vaccination de base des enfants faisait partie de la transformation de services de santé primaire. Budi Gunadisadikin, dans un communiqué de presse virtuel de YouTube du ministère indonésien de la Santé à Jakarta, jeudi expliquait que les 3 nouveaux vaccins, à savoir le VPH pour la prévention du cancer du col de l'utérus chez les mères, le PCV pour la pneumonie chez les tout-petits et le rotavirus pour la prévention de la diarrhée chez les tout-petits. Budi Gunadi a déclaré que la politique était l'un des nouveaux programmes lancés dans le système de soins de santé primaire en Indonésie lié à la transformation de la santé du premier pilier. Le ministère indonésien de la main d'œuvre invite les délégations du groupe de travail sur l'emploi EWG à visiter l'industrie de transformation de l'artisanat dans la région spéciale de Yogyakarta. Le chef du bureau de coopération du ministère de la main d'œuvre, M. Arif Hidayat, a déclaré dans un communiqué de presse reçu jeudi par Antara que l'activité était menée dans le cadre de la deuxième réunion de la délégation de l'EWG à Yogyakarta. L'un des produits artisanaux qui sont présentés aux délégués était le sac d'oie et l'usine situé sur la rue Godean, Sleman, région spéciale de Yogyakarta. Il a déclaré que les délégués étaient invités à observer la réalisation de la création d'emplois durables, une protection plus efficace et une résilience accrue pour tous les travailleurs. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « La Corée du Nord met en place une situation d'urgence nationale après la découverte des cas de COVID-19 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chaque jour, actuellement, plusieurs pays dans le monde ont commencé à assouplir l'application des protocoles sanitaires, car le nombre de cas positifs confirmés de COVID-19 a diminué. D'autre part, la Corée du Nord vient de déclarer une urgence nationale après avoir confirmé sa soi-disant première découverte en cas de COVID-19. Pyongyang avait précédemment affirmé n'avoir enregistré aucun cas de COVID-19 depuis la fermeture de ses frontières au début de la pandémie il y a plus de 2 ans. Les médias d'État locaux ont rapporté jeudi 12 mai 2020 qu'une sous-variante du virus Omicron hautement contagieux, connue sous le nom de BA.2, avait été détectée dans la capitale Pyongyang. L'agence officielle coréenne de presse centrale KCNA a déclaré que certaines personnes à Pyongyang avaient contacté la variante Omicron, sans fournir de détails sur le nombre de cas ou les sources possibles d'infection. La découverte de la variante Omicron présente un risque potentiellement sérieux pour la Corée du Nord, car on estime que le pays n'a pas vacciné ses quelque 25 millions d'habitants. La Corée du Nord est même connue pour éviter les vaccins proposés par le programme de distribution COVAX soutenu par l'ONU. Il a refusé les expéditions de vaccins du programme mondial de partage de vaccins COVAX et du vaccin chinois Sinovac Biotech. Cela indique qu'il y a une forte probabilité qu'aucun civil n'ait encore été vacciné. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en mars 2022, aucun cas de COVID-19 n'a été signalé et il n'existe aucun dossier officiel indiquant que des Nord-Coréens ont été vaccinés. Selon KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné le contrôle du virus par le biais des mesures d'urgence maximale, qui semblent inclure des ordonnances de confinement local et des restrictions sur les rassemblements au travail. Pendant ce temps, selon NK News, un site de surveillance basé à Séoul, les habitants de plusieurs endroits de la région de Pyongyang étaient en confinement depuis au moins 2 jours avant la dernière annonce. Depuis plus de 2 ans, la Corée du Nord affirme ne pas avoir un seul cas de COVID-19. Alors pourquoi la Corée du Nord l'admet-elle maintenant? Probablement parce que cette épidémie était trop grave et trop difficile à cacher. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il serait plus disposé à accepter une aide extérieure. Parce que jusqu'à présent, la Corée du Nord n'est pas un pays qui accepte facilement une aide extérieure, surtout si elle est liée au gouvernement ou aux politiques de ce pays. En tant que voisin le plus proche, la Corée du Sud a proposé son aide. Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré à Reuters que le président Yoon Suk-yeol, qui a prêté serment le 10 mai, ne lierait pas l'aide humanitaire à la situation politique et a ouvert la porte à un soutien à la Corée du Nord. Espérons que l'offre de soutien de divers partis à Pyongyang pourra aider et permettre au pays de sauver plus facilement ses citoyens de l'épidémie de COVID-19. Bon, cher Jolitar, c'est tout le commentaire d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhou bao hu ni, ni de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps de vous parler de l'histoire d'aujourd'hui, le 13 mai. Le 13 mai 1950, le début de la Formule 1. L'événement de course automobile de Formule 1 ou F1 a eu lieu pour la première fois sur le circuit de Silverstone à Angleterre le 13 mai 1950. F1 est la classe la plus élevée dans les courses de voitures monoplaces. Lors de la première compétition officielle de Formule 1, le pilote italien Giuseppe Farina a gagné dans son Alfa Romeo. La concurrence s'est arrêtée au début des années 1980 en raison des coûts élevés. Mais il a eu lieu à nouveau dans les années suivantes. Jusqu'à présent, la course automobile de Formule 1 est devenue l'un des sports les plus prestigieux au monde. Le 13 mai 1969, une émeute raciale à Kuala Lumpur. Il y a eu une émeute raciale entre les Chinois et les Malais à Kuala Lumpur, en Malaisie. Cette émeute a tué au moins 184 personnes. Cet incident est le point culminant du problème combinaison en Malaisie et a des liens étroits avec les élections générales du 10 mai 1969. À la suite de cette émeute, un ordre d'urgence a été émis. Personne n'était autorisé à sortir de la maison. La force de police patrouillant autour de Kuala Lumpur, des soldats du régiment de rangers avaient auparavant été déployés pour maintenir la sécurité autour de Kuala Lumpur. Cet incident d'émeute ethnique est un point noir dans l'histoire de l'État malaisien. Le 13 mai 1981, le 264e pape de l'Église catholique romaine, le pape Jean-Paul II, a été abattu par un Turc d'origine kurde, Mehmet Ali Aga, sur la place Saint-Pierre dans la cité du Vatican. Quatre coups de feu ont blessé le pape Jean-Paul II et ont dû subir une intervention chirurgicale et le pape Jean-Paul II a survécu. Le tireur, Mehmet Ali Aga, a été arrêté et condamné à la prison à vie pour tentative de meurtre. Le pape Jean-Paul II a pardonné au tireur. Le contexte du tournage reste un mystère. Il y a plusieurs années, Mehmet Ali Aga a déclaré qu'il était reconnaissant que son arme ne soit soudainement coincée, de sorte que le pape n'est pas mort de ses mains. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Saat kujumpa dirinya di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa.
Cinta, oh ini kah cinta.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Cesaritok, bonsoir. Voici donc Mon Indonésie et pour le titre... Le gouvernement indonésien est attentif à la dynamique et aux situations liées à l'huile de palme et maintenir la stabilité. Le gouvernement indonésien est attentif à la dynamique et aux situations liées à l'huile de palme et aux autres huiles végétales dans le pays et à l'étranger et maintient la stabilisation de la mer à Laval. C'est ce qu'a déclaré l'agent de la coordination de l'alimentation et de l'agroalimentaire du ministère de la coordination de l'économie, Musdalifah Mahmoud, dans ses remarques lors de la discussion de table ronde intitulée « La dynamique et les développements récents concernant l'huile de palme et les autres huiles végétales dans l'Union européenne » mercredi, cité par Antara le 11 mai. Musdalifah a déclaré que l'industrie de l'huile de palme était un secteur stratégique qui avait une contribution majeure au développement économique de l'Indonésie, en particulier dans les efforts visant à réduire les pauvretés et à créer des emplois pour environ 16 millions de travailleurs. En termes de sens, le secteur de l'industrie de l'huile de palme a également contribué de manière significative en générant des devises nationales de 35,5 milliards de dollars américains en 2021. Cependant, selon Musdalifah, l'industrie indonésienne de l'huile de palme est actuellement confrontée à divers défis. En outre, la pandémie de COVID-19, les mauvais records dus à des facteurs climatiques ainsi que les développements géopolitiques dans la région européenne ont provoqué des perturbations sur le marché mondial des huiles végétales, en particulier dans l'Union européenne. La Russie et l'Ukraine sont des pays producteurs d'huile de tournesol. Le conflit entre les deux pays a provoqué une pénurie d'approvisionnement en huile de tournesol dans plusieurs pays membres de l'Union européenne. La discussion a également été suivie par le professeur Pietro Paganini, professeur auxiliaire Fox School of Business de l'Université Temple de Philadelphie et l'Université John Cabot de Rome. Il a déclaré que c'était le moment exact pour l'Indonésie de jouer un rôle de leader dans l'approvisionnement en huile végétale dans le monde. Outre les problèmes internes liés à l'huile de cuisson et l'interdiction d'exporter de l'huile de palme et de ses dérivés, L'huile de palme est actuellement nécessaire à l'Union européenne et même au monde pour combler le stock vacant d'huile de tournesol qui ne peut être comblé par d'autres huiles végétales telles que l'huile de soja, l'huile de colza et l'huile d'olive. Selon Paganini, il faut admettre que l'Indonésie était plus avancée dans le développement de l'huile de palme durable. L'Indonésie a également fait preuve d'un travail acharné pour lutter contre la déforestation au cours de la dernière décennie. Ces résultats, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Sayu kedua mata indahmu saat bibirku mengecup manis pipi merahmu. Dengan lugunya engkau bertanya, mengapa diriku mencintaimu? Ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us and we and love. And trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you're starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets. I promise I will keep it, and I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. C'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Vous êtes avec moi, Audrey, et je vais vous présenter la tradition de manger du kulfot de Moulouk. Chers auditeurs, le septième jour après l'Aïd, il y a une tradition unique qui a lieu une fois par an par les habitants de Negri Kian, Kiandarat, dans la régence de Seram oriental, Moulouk. La population locale a généralement pour tradition de manger du kulfot après la prière de 7 jours à la mosquée. Cet aliment légendaire est toujours attaché et conservé par le peuple Kian jusqu'à maintenant. La tradition de manger du kulfot est une forme de gratitude pour les femmes qui jeûnent pendant 7 jours, ainsi que pour remplacer le jeûne béen pendant le mois de Ramadan. Chers auditeurs, selon une personnalité religieuse du pays, Kian Zubair Boufakar, la tradition de manger ensemble à la mosquée est spécifiquement destinée aux femmes pour rompre le jeûne. Mais pour les hommes, elle anime également la tradition de 7 jours de prière et de repas ensemble à la mosquée. L'ajout de 7 jours de jeûne est obligatoire pour les femmes âgées et pour les femmes, l'âge peut être ajusté 5 ou 30. Cette tradition a été transmise de génération en génération et c'est toujours inhérente à la communauté. Chers auditeurs, le kulfot est fabriqué à partir de poulpe, de sagou, de haricots verts, de jintan, de cassonade, de santan, de noix de sucre cristallisées, d'huile de cuisson et de feuilles de noix d'arec. Pour le faire, de lait de coco est cuit avec de la poulpe de sagou, des haricots iko, du sucre cristallisé, des noix, des cacahuètes, de jintan et de cassonade. Après mûr et solide, enveloppé dans la nervure médiane de la feuille de betterave. Avant d'être emballé, cette nervure médiane est d'abord séchée au soleil jusqu'à ce qu'elle soit tendre afin qu'elle soit facile à envelopper. Le kulfot qui est enveloppé dans des feuilles de noix de betterave et cuit pendant 2 à 3 heures et c'est devenu un favori local. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Yang tak biasa saat hati ini mulai mengagumi kamu, resah gelisah ku rasa kini saat diri ini mulai memikirkan kamu. Mungkin telah lama tak ku rasa ini, pun mati seribu bahasa. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Langit pun pastikan tersenyum, bintang pun pastikan menari. Saat kau tahu ada cinta dan itu hanyalah untukmu. Oh, ingin rasa
senyummu. Dan ku bilang I love you.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur intitulée RSVP, l'innovation d'étudiantes de l'ITS pour convertir les vibrations des véhicules en énergie électrique. Vous êtes avec moi Audrey. Cherchez tard, l'utilisation d'énergie renouvelable, respectueuse de l'environnement est au centre des préoccupations du gouvernement et du peuple indonésien. Dans ce contexte, une équipe d'étudiants de l'Institut de la Technologie 10 novembre ITS a développé une centrale électrique innovante à partir des vibrations des véhicules traversant la bande de bruit. La bande anti-bruit est un équipement supplémentaire sur la route qui sert à réduire la vitesse de conduite. L'équipe de développement de cette innovation est l'équipe Mahatma Gandhi. Grâce à une innovation appelée Road Speed Bumps Vibration Power Plant, RSVP, les vibrations mécaniques résultant du contact entre la bande anti-bruit et les roues des véhicules qui passent peuvent être converties en énergie électrique. Serge Etar Jody Rizky Rahman, chef d'équipe du Mahatma Gandhi, a expliqué que cette idée de conversion avait déjà fait l'objet de recherches. Si les recherches précédentes utilisaient des dos d'âne, l'innovation développée cette fois utilise du ruban anti-bruit que l'on trouve généralement dans les roues bondées. Ce type de ruban anti-bruit a été choisi car il peut être appliqué sur un plus large éventail de routes que les dos d'âne. De plus, selon Jody, l'utilisation de cette bande anti-bruit rend le contact entre le véhicule et la route plus important afin que plus d'énergie mécanique puisse être captée par le capteur. Cet outil est également connecté à un appareil mobile afin qu'il puisse être contrôlé via une application basée sur l'Internet des objets ou Internet of Things. chargé tard dans le processus de conversion de l'énergie mécanique en électricité, le RSVP utilise un capteur piézoélectrique. L'énergie électrique convertie est ensuite transférée à un module qui fonctionne pour amplifier la quantité de tension. La tension générée par ce dispositif est directement proportionnelle à la vitesse, à la masse et à la densité des véhicules traversant la bande de bruit. Même dans les embouteillages, le dispositif peut capter l'énergie mécanique qui existe lorsque le véhicule commence à traverser la bande de bruit. Bon cherche tard, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカルバイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson des Karungut modernes de la région du Kalimantan central intitulée Turus Janji. Cher ami, cette chanson raconte la promesse d'un couple d'amoureux qui navigueront ensemble dans un lien de mariage. La chanson a été réarrangée avec le genre de musique pop sans perdre ses éléments traditionnels, tout en incorporant un instrument de musique traditionnelle du Kalimantan central appelé la harpe. Ceci est fait pour que la musique sonne plus légère et soit facilement comprise par l'auditeur. Karungut lui-même est un art traditionnel du Kalimantan central en Indonésie, sous la forme de littérature orale ou également appelée pantun antoné. Le chant Karungut raconte les poèmes de la vertu en concoctant divers légendes, avertissements, réprimandes et avertissements sur la vie quotidienne. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti. Bonne écoute. Thank you. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.